Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-21h, Breaking Foot.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Breaking Foot du lundi au jeudi de 20h à 21h sur RMC. Dans un contexte un petit peu particulier, on va vous donner une heure du monde du foot. On va vous donner les toutes dernières informations, les toutes dernières coulisses de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène européenne. Et on est très très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Bonsoir Pierre Ducrot.
Bonsoir à toutes et à tous.
Mon Pierrot, t'étais trop loin, c'est ça hein? T'étais pas là encore hein?
Non, j'avais laissé j'avais le mauvais réflexe du micro posé sur le plateau, sur la table en plateau, et j'avais oublié de prendre mon micro dans la main.
Bonsoir Benoît Boutron.
Salut les amis, salut Mohamed, salut Pierre, salut à tous. Alors les gars, forcément c'est une émission un peu particulière hein, on dit tout à ceux qui nous écoutent évidemment sur RMC. Nous ne sommes pas les uns à côté des autres, puisqu'on signale que Mohamed et Pierre, vous êtes en direct de chez vous. D'ailleurs les gars, vous êtes dans quelle pièce de vos immenses appartements?
Je ne devrais pas dire ça parce que je vais me faire chambrer, mais la cuisine.
Non, l'appartement n'est pas immense. Ouais. J'aurais aimé être avec toi, Benoît, en studio, mais pour des raisons différentes, je suis à la maison, dans mon coin, avec ma femme, pas loin, et mon chien. Donc si vous entendez des aboiements, c'est mon chien. C'est Dipsy, c'est rien d'autre.
Très bien, c'est noté.
C'est pas ta femme.
Ne vous inquiétez
pas.
Ouais, bravo, ça c'est bon. On commence bien, Pierre Ducrot. Évidemment, on s'adapte sur RMC aux restrictions gouvernementales en cette période si particulière. Alors, au programme de Breaking Foot ce soir, l'Euro 2020, officiellement reporté en 2021. Une décision liée à l'épidémie de coronavirus, évidemment. Autre annonce importante faite par l'UEFA. La Ligue des Champions et la Ligue Europa sont pour l'instant suspendues. Les infos, les coulisses, les conséquences de ces décisions, on vous dit tout dans quelques secondes à 20h20. Allo Breaking, on vous attend au 32-16. Venez poser vos questions à Mohamed et à Pierrot. On reviendra notamment sur le clash du week-end entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Et puis un témoignage fort à 20h45, celui de Benjamin Lecomte, le gardien de but de l'AS Monaco. Comment gère-t-il cette période de confinement? C'est parti pour Breaking Foot. Et on démarre bien sûr par le report de l'Euro 2020.
RMC Breaking Foot,
l'info du jour.
Auparavant tout de même les gars sur RMC, j'ai envie de vous entendre Mohamed et Pierre sur l'info qui vient de tomber hein. Elle date de quelques minutes. Blaise Matuidi contrôlé positif à ce fameux coronavirus. La Juventus informe qu'il est à l'isolement volontaire à domicile, et ce depuis mercredi dernier hein. On signale également qu'il est asymptomatique, donc c'est pas forcément grave, il va bien Blaise Matuidi. On signale également que c'est le deuxième joueur de la Juventus de Turin qui contracte le Covid-19 après le défenseur italien Daniele Rugani. Momo, Pierre, vos réactions par rapport à cette info?
Ben on va dire que déjà je l'avais eu il y a quelques jours, Blaise Matuidi, je l'avais eu par message. Il vivait la situation avec ses proches, avec sa famille à la maison, confiné comme ces millions d'Italiens. Une situation difficile pour lui, mais ça avait l'air d'aller plutôt bien. Là, se communiquer. On va dire au départ peut-être inquiétant, mais nous rassure très très vite avec la Juve qui explique que Blaise Matuidi est asymptomatique, en clair qu'il n'a pas de symptômes, qu'il va bien, qu'il ne ressent pas de douleur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir le coronavirus et le soigner sans même le savoir. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour le champion du monde qui reviendra sur les terrains, Pierre, dès que cette crise sanitaire sera passée.
Oui, voilà, il n'y a pas besoin de trop en dire, je pense. Une occasion de saluer et de remercier le travail que font les équipes médicales. Alors quand tu as les symptômes, mais également en amont et en prévention, quand tu es asymptomatique comme Blaise Matuidi, voilà, on lui souhaite tout le meilleur et que ça passe très très vite pour lui.
Évidemment,
on peut le dire, Pierre, t'as raison de le signaler. Il est 20h05, il y a 6 minutes, des centaines de 1000 Français se sont rendus à leur fenêtre pour applaudir le personnel soignant. Je recevais un message sur les réseaux sociaux d'un infirmier qui travaillait à la Pitié-Salpêtrière, Mathieu. Je voulais le saluer comme saluer tous les soignants et les soignantes qui font un travail exceptionnel en France pour sauver des vies aujourd'hui et pour sauver toutes ces personnes qui sont en réanimation. Voilà. Donc merci à vous, et c'est vraiment important de le rappeler. Merci de votre travail. C'est grâce à vous si la situation n'empire pas, et on espère de tout cœur que ça va se rétablir assez rapidement.
Effectivement, et RMC est là pour vous puisqu'on poursuit au programme. Vous avez donc ce Breaking Foot comme à l'habitude du lundi au jeudi. Aujourd'hui on est là de 20h à 21h et on va donc parler de l'info de la journée, cette journée historique les gars pour le foot européen. L'UEFA a donc officialisé en début d'après-midi le report de l'Euro 2020. On rappelle que la compétition devait se dérouler dans 12 villes à travers l'Europe entre le 12 juin et le 12 juillet. Une décision qui a été prise après une réunion tenue entre les différentes ligues et les fédérations en visioconférence. Ça s'est passé à Nyon en Suisse. L'idée est simple en fait, Mohamed: reporter l'Euro d'un an pour permettre aux championnats nationaux et aux Coupes d'Europe d'aller à leur terme.
Oui, c'est ça, Benoît. C'était l'ambition d'Alexander Seferin, le président de l'UEFA. Il a entendu tous les présidents de ligue, hein. Il a entendu aussi tous les dirigeants des plus grands clubs européens et des présidents des très grands clubs qui voulaient terminer ces championnats, à part un président assez important en France, Jean-Michel Aulas, qui avait évoqué cette idée. Dans tous les grands clubs européens, on avait cette volonté de terminer les championnats nationaux et surtout de terminer cette Champions League et cette Ligue Europa. Donc Alexander Seferin n'avait pas d'autre choix que de reporter l'Euro. Ça aura lieu l'été prochain, à partir du 11 juin 2021. C'était l'objectif, surtout de ne pas prendre de risques pour éviter d'avoir des trous dans ces championnats nationaux. Pierre, on va dire que c'est pas beau ce que je veux dire, c'est pas une expression française, on va dire, mais c'est la solution qui est sans doute la moins mauvaise, ou comme diraient certains, la moins pire. Voilà.
Oui, c'était pas une solution, c'était la seule chose à faire. Voilà, t'avais pas de choix plutôt, voilà, à faire. C'était le seul moyen de minimiser les risques d'annulation d'une compétition comme ça. Et puis t'aurais jamais pu la faire de toute manière avec ce qu'il se passe actuellement, la durée pour laquelle tout ça va s'étaler, et t'aurais pas le temps de programmer un euro. Donc c'était même pas un choix, c'était une évidence et il fallait le faire.
On peut préciser quelques infos. Effectivement, Mohamed, on a les nouvelles dates, hein, donc ce sera du 11 juin au 11 juillet 2021. On précise que les barrages qui étaient prévus en mars finalement devraient se disputer au mois de juin. On précise également à tous ceux qui auraient déjà acheté des billets que l'UEFA s'est voulu rassurante et que les détenteurs de billets auront la possibilité d'obtenir un remboursement s'ils veulent se faire rembourser ou si
oui.
S'ils peuvent
tout
tenir
sera remboursé.
Eh bien, ils le pourront tout de même aller assister aux différentes rencontres. Hein.
Tout sera remboursé par l'UEFA. Il y aura pas de souci sur ce point-là. Et d'ailleurs, même les présidents de fédération, hein, on va saluer aussi le travail de Noël Le Graët, qui a tout de suite pris la décision, le président de la Fédération française de football, d'arrêter le monde du football amateur et d'arrêter toutes les fédérations et les districts, parce que ça devenait beaucoup trop dangereux. Tous les présidents de fédération et tous les entraîneurs des grandes sélections l'avaient dit. C'était mieux de reporter cet euro. La place n'est pas au football aujourd'hui. Et Mancini, le sélectionneur italien, l'a dit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir en Italie. On ne voyait pas comment le football pouvait continuer, surtout cet euro où il faudra, qui arrive vite cet été, où il faudra se relever. Donc c'est la meilleure des décisions que le football a pris. Et surtout, on espère vite que cette situation va s'arrêter, arrêter d'empirer aussi pour boucler aussi les championnats nationaux. Et là, il y a un vrai thème. Là, il y a un vrai thème sur ce sujet.
Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, notamment durant le Halo Breaking, hein, qui sera consacré évidemment au clash entre Héro et Aulas. Mais on parlera également de la suite à donner à cette saison de Ligue 1. Il est 20h10, vous écoutez RMC, on est dans Breaking Foot et on accueille Damien qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien.
Salut Damien.
Bonsoir à tous.
Bon, salut Damien.
Damien, toi tu rejoins l'avis général. Pour toi, la santé passe avant tout et il fallait, quoi qu'il arrive, reporter cet Euro 2020.
Hein. La santé pour moi c'est une priorité. Le sport, certes, c'est ce qui rythme notre quotidien. C'est un peu comme une religion, un phénomène social qui permet d'oublier les problèmes, voilà, qui permet aussi de rassembler. Et pour moi, voilà, la santé c'est une priorité. C'était une évidence, ces décisions prises par l'UEFA, notamment la Copa América également, la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Euro 2020, du coup, qui sont reportés jusqu'à nouvel ordre, et puis l'Euro 2020 reporté à l'année prochaine. Donc pour moi, voilà, il faut rester soudé, il faut prendre soin de nos familles, prendre soin de tout le monde. Certes, voilà, le foot, ça va nous manquer, mais si on veut en sortir gagnant, il faut tout écouter du gouvernement. Les précautions, il faut les prendre. Et pour moi, voilà, même si le foot, c'est, comme je le dis, c'est un peu comme une religion pour tous les amoureux du sport, généralement également. Voilà, il faut prendre des précautions. Et puis, franchement, félicitations à vous de continuer les émissions, parce que il faut continuer ce droit de nous informer. Et merci à vous, en tout cas, de continuer vos émissions et à nous informer de la meilleure des manières. Voilà.
Ouais, Damien, alors, merci pour tes mots, mais on n'a aucun mérite, hein, par rapport à ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou ceux qui aident dans les EHPAD. Voilà, aide dans les EHPAD ou ceux qui se déplacent. Vous voyez, j'habite juste à côté d'un EHPAD. Il y a des gens qui se déplacent aujourd'hui pour aller soigner des personnes âgées. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, Damien, d'être venu dans Breaking Foot. Merci pour ton message.
Et on peut poursuivre également sur l'aspect sportif, les gars, parce qu'on parle de l'Euro 2020. Je voulais juste poser une question à Pierre, savoir ce que tu penses du timing. Là, on est à 3 mois du début de la compétition. Tu penses que le timing est plutôt bon? C'est-à-dire qu'on n'était pas encore vraiment tourné vers cet Euro. On pensait encore à nos championnats nationaux et à nos Coupes d'Europe.
Ouais, tu veux dire quoi, qu'on aurait peut-être pu attendre, c'est ça, avant de se prononcer?
Non, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas non plus à 15 jours de la compétition. C'est pas non plus une déception immense que de voir l'Euro reporté d'un an.
J'ai envie de te dire que de toute manière, par rapport, enfin, devant la situation actuelle, l'Euro aurait été dans 15 jours, ça aurait été pareil. Il aurait fallu prendre la même décision de le reporter, de surtout pas le jouer, peu importe les conséquences économiques pour l'UEFA, pour certains pays. On l'a dit, l'auditeur Thomas, je crois, vient de nous le dire
Damien.
Aussi. C'est évident pour tout le monde, la santé avant tout. Donc, je veux dire que le timing là-dedans, il est secondaire, ouais. Peu importe. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait gérable à 3 mois d'une compétition de tout annuler.
Je voulais juste vous donner d'ailleurs le communiqué qui a été publié par Didier Deschamps. Je vais vous lire ses propos. L'UEFA a décidé de reporter l'Euro 2020 d'une année. C'est une sage décision au regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer sur l'ensemble de la planète. Pour nous tous, la priorité est ailleurs. Elle rejoint tout à fait tout ce qu'on dit depuis le début de Breaking Foot. Pensons à ceux qui souffrent et à tous ceux qui malheureusement risquent de souffrir dans les jours ou les semaines qui viennent. Il convient plus que jamais d'avoir le sens des priorités, des responsabilités, du civisme. Le seul match à gagner, c'est celui que nous livrons actuellement contre le coronavirus. C'est vraiment ça le message qu'il faut envoyer, les gars, Mohamed et Pierre, ce soir.
Oui,
bien sûr.
Oui, mais parce que le sélectionneur national Didier Deschamps a bien conscience que la situation, elle est terrible, elle est critique. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec plusieurs joueurs de l'équipe de France, il n'y en a aucun qui pense à sa situation, il n'y en a aucun qui pense à disputer l'Euro. Parce que, Pierre, on le sait, c'est l'une des plus belles compétitions comme la Coupe du Monde dans une carrière de joueur. Et pourtant, ces joueurs-là ont pris conscience, parce qu'on dit souvent, oui, c'est des jeunes joueurs, etc. Mais ces joueurs-là ont conscience actuellement qu'on traverse une crise sans précédent. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
Ah ouais, non, mais il y a pas d'âge là. Ceux qui pensent qu'il y a un âge pour réaliser ce qui se passe en ce moment, ils sont profondément débiles. Tout le monde en a conscience. Même on a des enfants, etc. Quand à longueur de journée tu entends ce qui se passe, quand tu te retrouves confiné, à n'importe quel âge tu sais qu'il se passe quelque chose de très particulier. Voilà, pour pas utiliser d'autres mots. Donc, finalement, il n'y a pas trop à réfléchir. Le bon sens l'emporte, sur tout le reste. Que ce soit des compétitions de football ou autre chose. Et qui plus est, parce que c'est peut-être la plus belle compétition de football, autant la faire dans de bonnes conditions et pas dans des conditions particulières comme ça.
Excuse-moi, Pierron, on précise juste que la Copa América a également été reportée aux mêmes dates d'ailleurs que l'Euro 2021. Ça sera les mêmes dates, donc du 11 juin au 11 juillet. Il y a une autre interrogation qui a été soulevée, entre guillemets, Mohamed, c'est donc la suite à donner à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa. Pour l'instant, la parole officielle de l'UEFA, c'est qu'on suspend les compétitions. On attend de voir un petit peu l'évolution de la crise sanitaire en Europe. On ne pouvait pas continuer ces compétitions et on attend de voir avant de décider quelque chose.
Oui, ça c'est la chose la plus importante, hein, parce qu'on sait le lobby aussi des très grands clubs européens qui sont encore qualifiés dans cette compétition. Je pense à on verra, il y aura le match entre le match retour entre Lyon et la Juve, il y a le PSG, il y a le Real Madrid ou Manchester City, il y a l'Atlético Madrid, il y a encore de très grands clubs dans cette compétition cette saison, et aucun ne veut d'une saison blanche. Ça, c'est une certitude. Tout le monde veut jouer cette compétition, donc il y a plusieurs formats qui ont été évoqués aujourd'hui au sein du conseil de l'UEFA. Il y a un gros format sur une idée d'un Final 8, donc une finale à 8 qui pourrait arriver et se transformer en Final 4, en finale à 4, avec un match aller-retour et une grosse finale sur le lieu de la finale qui aura lieu à Istanbul en Turquie. Voilà, l'idée c'est, quoi qu'il arrive, de trouver des dates. Les dates qui vont avoir lieu avant le 30 juin, d'ailleurs il y a déjà des questions sur les réseaux sociaux, je pense notamment à quoi reste ma jambe, bah, pas de pression, qui me demande sur Twitter, existe-t-il une possibilité que la Ligue 1 continue après le 30 juin? Pour la Ligue 1 et pour la Champions League ou la Ligue Europa, il y a une possibilité que le football continue après le 30 juin. Philippe Pia l'a dit, il y a la possibilité de faire des avenants, par exemple dans le monde du football, de continuer un peu la saison, mais c'est pas la volonté. La volonté de l'UEFA, de la Champions League, de la Ligue Europa et de la Ligue 1, c'est de terminer le 30 juin. C'est pour ça que la date du 27 juin est sortie un petit peu dans les médias, parce que c'est la dernière grosse date avant le samedi. Aujourd'hui, le message qui est sorti de l'UEFA, Pierre, c'est que les retours que l'UEFA a, c'est que la crise va continuer avec un pic qui devrait avoir lieu début avril, donc protégez-vous, restez bien chez vous, confinez-vous. Le président de la République, Emmanuel Macron, a raison. Il faut rester à la maison parce que le pic est attendu début avril, avant que ça redescende et qu'on puisse rêver de rejouer, allez, mi-mai, fin mai pour le football, et qu'on puisse avoir tout le mois de juin afin de rattraper toutes les situations. Ça, Pierre, ça serait le scénario parfait, j'ai envie de dire.
Oui, ce serait le scénario idéal dans cette situation catastrophique. Voilà, il y en a pas beaucoup d'autres hein, de toute manière de scénarios. Si ce n'est que si tu peux pas faire ça, ça veut dire que bah ça aura encore plus d'ampleur, que tu n'auras pas le temps de finir les compétitions. Et alors là, il y aurait encore des décisions plus gênantes à prendre. Donc oui, l'idéal c'est ce que tu viens de le protocole que tu viens de donner, c'est-à-dire une reprise peut-être courant mai, une compétition qui se finirait avant le 30 juin avec des matchs très condensés sur un mois et demi, un mois.
On va accueillir Lionel au 32-16 d'ici quelques secondes. Juste une question, parce que ça va dans le sens de ce que va nous dire Lionel. Pierre, à ton avis, il faut prioriser quelle compétition ? Les championnats nationaux, la Ligue 1, la Ligue 2 ou alors les Coupes d'Europe ?
Moi, je pense que tu peux pas. Tu dois finir les compétitions qui sont en cours, donc toutes. Les compétitions nationales et les coupes d'Europe. Tu dois essayer de caser ça. Alors effectivement, étaler sur quelques semaines pour les championnats nationaux et peut-être pour les coupes européennes, s'arranger pour qu'il y ait un final eight. Voilà, on parle beaucoup de ça et ça me semble être la solution la plus appropriée pour condenser je sais pas trois matchs sur une petite semaine et encore voilà peut-être même pas jouer tous les deux jours. Alors c'est des matchs qui normalement nécessitent du repos pour avoir les plus beaux matchs de la saison et là forcément les acteurs seront forcément très très diminués parce qu'ils auront eu une période d'arrêt énorme, une période de préparation pour reprendre qui aura été trop courte. Tu auras forcément joué dans tes championnats nationaux beaucoup de matchs si possible. Et tu vas te retrouver à jouer les tours finaux d'Europa League et de Champions League sur une très courte semaine. Bon, le spectacle sera peut-être pas le meilleur, mais on pourra dire que tout le monde a œuvré dans le même sens pour finir les compétitions et ce sera peut-être l'intérêt, le principal intérêt, ouais.
Benoît, cette information avant qu'on prenne Lionel au 32-16. On est dans un scénario où il nous faut 23 dates. Au maximum 23 dates, je peux te les donner. Les 10 dernières journées de Ligue 1, Ligue 2, donc ça fait 10 dates. Les matchs en retard, les deux finales Coupe de la Ligue, Coupe de France, les play-offs de la Ligue 2, les deux dates, les barrages Ligue 1, Ligue 2 qui sont deux dates aussi, et la fin de Ligue des Champions. Donc au minimum 17 dates. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 23 dates avec un huitième, deux quarts, deux demi et une finale. Mais c'est pas du tout la volonté de l'UEFA et de la Ligue 1 pour l'instant. Donc il y a aussi cette possibilité, c'est que pour la première fois, et ça a été très rare, bien que un quart de finale, par exemple, de Champions League se joue le même soir qu'une journée de Ligue 1, on verra ça. Voilà, dans toute l'Europe, pendant un mois et demi, on va avoir du foot partout, quoi.
Ouais. Et Momo, en allant dans le même sens, je pense que les équipes qui vont être concernées par les matchs de barrage en Ligue 2 ou en Ligue 1 seront pas les équipes qui sont en finale des coupes.
On peut
tout à fait imaginer que pour une fois, on va s'adapter et qu'on jouera une finale de coupe nationale en même temps qu'un match de barrage. C'est pas grave.
Les Anglais se posent pas de questions. Hein. Quand faut mettre un match en retard de championnat un soir de Ligue des Champions, ça leur pose pas de problème.
Hein. Bien sûr.
Ils devaient jouer des matchs.
Oui, c'est pour ça. City, c'est pour ça que franchement, c'est au-delà de on va accueillir Lionel qui nous a appelé au 32-16 pour réagir, mais on va revenir sur la polémique née de l'échange de Jean-Michel Aulas et de Jacques Henri Hérault. Mais au-delà des mots de Jean-Michel Aulas, tous les plus grands dirigeants du football européen veulent finir les championnats pour une question aussi de recours. Imaginez qu'on termine pas les championnats, mais que vont dire tous les clubs de Ligue 2 qui prétendent à la montée? C'est impossible de ne pas quasiment impossible de ne pas finir les championnats. On ne peut pas avoir de saison blanche et on va prioriser ça et on va prier, on va espérer que la Ligue 1, que la crise s'arrête afin de retrouver un mois de compétition. Et si on a un mois de compétition, tout s'arrangera.
Allez, 20h21 sur RMC, vous écoutez Breaking Foot. Lionel est donc avec nous au 32-16. Salut Lionel.
Salut,
on est très heureux de t'avoir, Lionel.
On est heureux de l'avoir parce qu'il nous appelle des Bouches-du-Rhône et du coup il est supporter parisien. Et lui, il veut prioriser la Ligue des Champions par rapport au championnat. C'est un peu ça, Lionel?
Non, j'ai pas dit prioriser. C'est juste qu'en tant que supporter parisien, il faudrait changer. Il faut qu'on change de nom, il faut qu'on change tout parce qu'on a la poisse. Honnêtement, on est poisseux. Mais en même temps, moi d'abord, avant de parler de foot, je voudrais faire un big up à tous nos hôpitaux, à tous ceux qui font qu'en ce moment on peut compter sur eux et qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire qui fait que voilà, le foot est secondaire, les décisions qui ont été prises aujourd'hui sont les bonnes concernant l'euro. Après, c'est secondaire. Moi, je parle en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Ça fait 3 ans que je suis en galère de Coupe d'Europe. Je morfonds pour ce qualif en quart de finale. Là, on y arrive et on nous parle de pas l'annuler, mais de la suspendre. Donc oui, effectivement, en tant que supporter, on aimerait que la Ligue des Champions aille au bout. Maintenant, si ça se termine dans 3-4 mois et qu'on peut pas reprendre et que c'est impossible de trouver des dates, on fera avec, on passera une autre saison. Et c'est pas grave, c'est pas le problème. Le problème en ce moment, il est, comme vous le savez tous, dans la maladie. Et il faut qu'on s'en sorte. Maintenant, si on doit parler foot, puisqu'on est dans votre émission,
Moi, je considère que le championnat, il est fait à 70%. Donc, pourquoi pas faire des barrages comme au rugby, en haut et en bas? Moi, en tant que supporter parisien, ça ne me dérangerait pas de, pour un champion de France, de faire des barrages des 6 premiers et des 6 derniers qui font, parce qu'il ne faut pas oublier les relégations, les Ligue 2, on parle de tout pour éviter qu'il y ait trop de dates. Si on se mettait à commencer au mois de mai, parce que je pense qu'on ne commencera pas au mois d'avril, ça c'est utopique de penser qu'on va commencer au mois d'avril. Donc voilà, trouver des solutions pour que tout aille au bout, mais en même temps, on pourra pas, je ne pense pas qu'on pourra faire 10 journées de championnat, 23 dates, vous vous rendez compte que ça fait 23 dates, il faudrait qu'on aille jusqu'à fin août, commencer la saison d'après au mois de septembre, éviter les vacances. Les joueurs ne sont pas des machines non plus, ils sont comme nous, ils sont humains, la crise...
Si, Lionel, en clair, si on redémarre mi-mai, ça passe. Voilà.
Si ça démarre mi-mai, oui, on peut finir, on jouera tous les 3 jours, mais après, je vous entends parler, il faut qu'ils se remettent en forme. C'est tout le monde pareil, donc tout le monde ne sera pas en forme, donc les matchs ne sont pas...
T'as raison.
Tout le monde sera au même niveau. C'est-à-dire, si les matchs sont pourris au début, parce que les mecs seront tous pourris, ça sera pas une équipe qui sera au top, et les 18 autres qui seront mal logés, comme quand on joue tous les 3 jours.
Je suis content de t'entendre dire ça. Je suis très heureux de t'entendre dire ça, parce que quand moi je l'ai dit, j'étais dans l'after, je crois, il y a deux soirs. Écoute tous les commentaires. Alors c'est Twitter, hein, on sait ce que représente Twitter, mais tous les commentaires en dessous sont les mêmes. C'est que de toute manière, comme la Ligue 1 est pourrie, ça continuera, ça changera pas. Voilà. Donc je suis content de te l'entendre dire. Et effectivement, il faudra y penser à ce moment-là, et il faudra pas demander qu'effectivement l'intensité, etc., soit au même niveau que d'habitude. Ça sera effectivement le cas.
Ouais. Merci Lionel d'avoir été avec nous.
Merci Lionel. Merci à toi.
Merci Lionel.
À bientôt sur RMC. Il est 20h24 et on accueille notre invité. C'est l'entraîneur du Stade Brestois qui est avec nous, Olivier Dalloglio.
Bonsoir Olivier. Olivier, on imagine que vous avez suivi la décision de l'UEFA de reporter l'Euro. Est-ce que c'est une bonne décision pour vous, ce report de l'Euro?
Ah, on a perdu, on a eu un petit problème de connexion.
Les lignes qui sont saturées depuis 24-48 heures touchent aussi Brest et Olivier Dalloglio, mais je suis sûr que notre producteur Jimmy Brown va vite retrouver son numéro pour l'appeler. Ouais. Non, juste avant qu'on retrouve Olivier Dalloglio, à moins qu'il soit là, Benoît,
il n'est pas encore là.
Pierre, il a pas tort, notre auditeur Lionel, c'est que on parle de la Ligue 1 qui va revenir, on espère, mi-mai, début mai ou fin mai, mais il faudra aussi compter sur 3-4 journées qui ressembleront aux journées de début août.
Mais quasiment toute la fin de championnat, Momo. Tu verras, ce sera pas que pour 3-4 journées, malheureusement. Tu peux pas arrêter une saison comme ça pendant deux mois et demi, demander à des athlètes de haut niveau, peu importe ce qu'en pensent beaucoup de gens, ce sont des athlètes de haut niveau qui jouent des matchs de haut niveau, et particulièrement en Ligue 1. Moi, j'insiste, ceux qui ne l'aiment pas, tant pis. Moi, je l'aime bien, notre Ligue 1. Et tu pourras pas demander à ces sportifs de haut niveau, à un moment donné, d'avoir la même intensité, déjà physique, et même techniquement, et etc., de retrouver tout de suite un football, des repères, etc. Ça va être très compliqué. Et ce sera de toute manière très, très particulier de rejouer une quinzaine de matchs pour certains, une quinzaine de matchs en un mois et demi. Ça va être très, 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 très dur d'avoir des vrais matchs de haut niveau. Ça sera très compliqué.
On a retrouvé, Pierrot, la ligne avec Brest, avec Olivier Dalloglio, entraîneur du Stade Brestois. Bonsoir, Olivier.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, Olivier.
Olivier, juste avant votre arrivée, on évoquait le report de l'Euro officiel aujourd'hui. Oui. C'est la meilleure décision qui pouvait être prise?
Oui, je pense que c'est une bonne décision, parce que ça va libérer des dates. Alors on ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup de compétitions maintenant du football qui sont annulées. J'ai vu Roland Garros aussi.
On a quelques problèmes de liaison avec Olivier Dalloglio. Il signalait d'ailleurs que Roland Garros avait été reporté au mois de septembre. Effectivement, c'est l'autre info sport de cet après-midi. Roland Garros ne se disputera pas fin mai, début juin, et sera bien décalé au mois de septembre. On va retrouver Olivier Dalloglio.
On va retester une dernière fois peut-être la ligne avec Olivier Dalloglio.
Ouais, il est là, Olivier. Vous nous entendez, Olivier?
Oui, je suis là.
Parfait.
Je suis là.
Ah, on vous a retrouvé, Olivier. Ouais. La ligne n'est pas très bonne, mais on a compris votre première réponse, Olivier. Est-ce que juste vous, en tant qu'entraîneur du Stade Brestois, tout va bien? Vous êtes 14e. Est-ce que vous êtes quand même rassuré sur les dates de calendrier qui pourraient se libérer? On imagine que vous avez envie, vous, si les conditions et le climat sanitaire le permet, de boucler cette saison.
Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est la priorité. on a tous envie de finir le championnat équitablement. Voilà, pour qu'il y ait une réelle justice. Maintenant, quand on voit l'ampleur qu'a pris le virus, on se pose des questions. Et, même si, je veux dire, la priorité, quand même, ouais, c'est vraiment un message que je veux passer, mais nous, la priorité, c'est la santé de tout le monde qui est d'abord la priorité. Après, c'est vrai qu'après, on discute un petit peu de ce qui peut se passer autour de cet événement-là et puis de savoir comment on va pouvoir rebondir, mais tout dépend, tout va dépendre des dates de reprise. Hein.
Olivier, comment
On se pose beaucoup la question de savoir ce que font les joueurs de leur journée. En plus, là, le confinement a démarré à midi en France. Qu'est-ce que ça fait un entraîneur pendant ces journées?
Moi, je sais, Olivier, je peux répondre à ta place. Ouais. Pour Brendan Chardonnay, au moins, j'ai eu des messages et il a couru aujourd'hui. Il a fait du tennis et il a couru. C'est bon.
C'est bien, c'est que c'est le programme qu'on a mis en place. Ouais. Alors, c'est déjà ça.
Ouais, c'est quoi le programme? C'est quoi le programme d'ailleurs, coach?
Des coachs, enfin de moi, déjà d'être en relation avec tout le staff. On s'est eu au téléphone. Bon, hier on avait une petite réunion pour prévoir un petit peu ce qu'on allait faire avec les joueurs, notamment une programmation sur les 15 prochains jours. Donc on a envoyé la programmation ce matin avec un travail physique, parce que bon, aujourd'hui les garçons peuvent sortir, puis après un travail à la maison. Avec le gainage, etc., la musculation. Donc, et on a mis un système aussi de notation, en fait. On est en relation avec eux pour nous dire si les séances leur conviennent, à quel niveau ils sont. Donc, on fait une grosse confiance aux joueurs et, pour qu'il y ait un retour. Donc, on garde le contact avec eux. Donc, pour revenir à mon emploi du temps, bon, ben déjà avec le staff, on a mis ça en place. Et puis après, quelque part, on se projette déjà un peu sur la saison d'après, parce qu'on a beaucoup de vidéos. Déjà, prévoir notre recrutement éventuellement. Donc, si on a des joueurs que l'on suit, on les regarde avec la vidéo. Sauf que c'est pratique aujourd'hui. Sur mon ordinateur, on a des logiciels qui sont perfectionnés pour tous les éléments qui sont filmés dans le monde. Donc, ça peut nous occuper pas mal la journée. Et puis, moi-même, même si Brendan est sorti faire un footing, moi aussi, je ne suis pas sorti faire un footing parce que c'était beau à Bretagne aujourd'hui. Ouais.
Mais la chance que vous avez, c'est que les liaisons téléphoniques sont compliquées. Donc, les agents comme Pierre Ducrot ne vont pas vous harceler. Quoi. C'est ça l'avantage.
Bon, il reste les mails.
C'est ça que j'allais dire. On aurait aimé rester un petit peu plus avec Olivier, mais la ligne est trop compliquée. Mais je peux vous le dire, j'ai croisé Olivier Dalloglio il y a quelques semaines dans un restaurant. Je pense qu'il court beaucoup parce qu'il est vraiment très fit. Hein. Il est vraiment très très fit. Hein.
Plus que Pierre Ducrot.
Merci. Non, et plus que moi aussi. Merci beaucoup, Olivier.
Avec plaisir.
On suivra bien évidemment la reprise du Stade Brestois et on vous passera quelques coups de fil dans les prochaines journées. Bon courage à vous au Stade Brestois.
Il est 20h30. Sur AMC, on remercie Olivier Dalloglio d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Allo Breaking. Vous venez poser vos questions à Mohamed et à Pierre et on reviendra sur la polémique du week-end entre les présidents lyonnais et marseillais, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Tout de suite.
RMC, 20h-21h, Breaking Foot.
Breaking Foot jusqu'à 21h sur RMC. Ils sont là, Mohamed Bouafsi, Pierre Ducrot dans 15 minutes.
Benjamin, on est là, on est toujours là.
Eh oui, on sera toujours là, évidemment, ouais, pour vous.
Même si moi, je préfère Louis Amar parce que j'ai pas de réflexion sur ma, sur ma condition physique avec lui. Hein, mais bon.
Oui, mais, tu sais mais c'est parce que Benoît est tellement fit aussi.
Vrai que Louis Amar, pour le voir faire un footing, tu peux y aller, mon vieux.
Franchement, je tiens plus longtemps un footing que Louis Amar, je pense. Sincèrement.
Le test des 15 secondes sans respirer, même lui en pleine santé, il n'y arriverait pas, je pense. Et on l'embrasse d'ailleurs, on pense à lui. Dans 15 minutes, Benjamin Lecomte, le gardien de but de la S Monaco, sera notre invité. Mais tout de suite, on vous donne la parole au 32-7.
RMC.
Allô,
Breaking Foot.
Le célèbre Allô de Coach Courbis. Et le premier auditeur qui va nous accompagner, messieurs Mohamed et Pierre, c'est Franck qui nous a appelé, les supporters lyonnais. Salut Franck.
Salut Franck.
Bonsoir à tout le monde.
Alors Franck, on va rappeler un petit peu la polémique du week-end. Évidemment, ouais. Ça a beaucoup fait réagir le monde du foot. C'est cette prise de bec entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Tout cela est parti d'une interview en fait de Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Monde. Il avait proposé pourquoi pas une saison blanche, ce qui permettait à Lyon en fait de repartir en Ligue des Champions la saison prochaine. C'était une des pistes évoquées par le président lyonnais. Il y a eu une réponse du président marseillais Jacques-Henri Hérault dans le JDD. Il a dénoncé l'égoïsme et l'obscénité de Jean-Michel Aulas et réponse hier soir de ton président Jean-Michel dans Team Dugas.
les avocats que j'ai consultés encore aujourd'hui vont attaquer en diffamation. C'est diffamatoire. On a voulu me faire passer pour quelqu'un qui se préoccupait du fait que l'Olympique Lyonnais ne jouerait pas peut-être la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais on a oublié une chose, c'est que il reste 10 matchs, il y a 30 points à prendre. C'est encore possible de revenir. Qui joue la finale de la Coupe de la Ligue cette année contre le Paris Saint-Germain et qui peut accéder du coup à la Coupe d'Europe? Et si même on la gagne pas et que Paris la gagne, ça veut dire que le 6e, peut-être le 7e, va être européen. Qui aujourd'hui est qualifié en Champions League pour un match retour contre la Juventus? Vous croyez pas que j'ai plus intérêt que d'autres à finir le championnat et à finir les compétitions? C'est pas acceptable qu'on laisse penser que eh bien ceux qui m'attaquaient ne l'étaient pas. Et en fait, c'est exactement l'inverse. C'est ceux qui m'ont attaqué, y compris en diffamant, qui ont laissé penser que on était plus intéressé par le classement de Lyon que par l'intérêt général. Alors qu'en fait, c'est l'inverse.
Voilà les propos de Jean-Michel Aulas dans Team Gall. L'histoire a pris une telle ampleur que Didier Quillot, le DG de la Ligue, et Noël Le Graët, le président de la Fédé, ont même lancé un appel au calme. Franck, toi, ce que tu dis en tant que supporter lyonnais, en tant que fan de foot surtout, c'est que oui, il peut être critiqué Jean-Michel Aulas, mais lui au moins, il propose des idées. C'est un peu ça. Hein.
C'est un peu ça. Bon, alors déjà, bonsoir tout le monde. Je voudrais dire une chose. Alors, prenez-le pas mal parce que c'est pas une chose que j'ai entendue à Breaking Foot. D'ailleurs, je passe souvent à l'antenne et je vous en remercie à Breaking Foot. Hein. J'en ai marre qu'on essaye de faire passer Monsieur Aulas, un vieux gâteux, un béni oui-oui. C'est un des présidents les plus intelligents de notre championnat. Moi, je lui fais entièrement confiance. Et croyez-moi que si Monsieur Aulas a balancé un truc comme ça, c'est pas innocent. Je pense qu'il a effectivement lancé une idée comme ça. Aujourd'hui, qui peut nous dire ce qui va se passer? Parce que j'entends toutes les supputations comme quoi, dans 15 jours, on va reprendre les entraînements, dans 3 semaines, mais on ne peut pas savoir. Déjà, on ne peut pas savoir si le championnat va reprendre. Personne ne peut nous le dire si la pandémie va durer un mois et demi, mais 2 mois.
C'est pas mieux de se taire quand tu ne peux pas savoir, justement? Quand tu ne sais pas et que personne ne sait, c'est pas mieux de se taire?
Non, mais pourquoi vous dites ça? Il balance.
Non, c'est une question. Je te demande ton avis.
Eh ben, je vais vous répondre. Ça s'appelle anticiper. Anticiper.
Ah non, quand tu sais rien, puisque tu viens de nous dire que personne ne peut savoir, pour moi, c'est pas d'anticipation. L'anticipation, c'est pas ça. C'est quand tu sais des choses, justement, et que tu peux imaginer différents scénarios possibles.
Après, Pierre.
Pour moi, l'anticipation, c'est ça.
Anticiper, ça veut dire prévoir ce qui va se passer dans l'avenir, donner des idées. On ne sait jamais, comme ça on ne sera pas pris au dépourvu. Par exemple, si on avait anticipé au niveau de ce qui se passe aujourd'hui, au niveau des masques et du reste, on ne serait pas pris au dépourvu. Et bien là, M. Aulas, il balance une idée, hein, et comme ça, si dans un mois et demi, 2 mois, il se passe quelque chose, et bien cette idée,
tu veux que je te dise, si je te rejoins, admettons que, ce qui n'est pas le cas, hein, je te le dis, mon avis, c'est pas le tien, mais imaginons que je te rejoigne dans ce que tu es en train de développer là. Tu penses pas que ça aurait été mieux que Monsieur Aulas au lieu de le balancer, comme tu dis, le dise ou en fasse part ou fasse partager dans les collèges de présidents où il représente le football et la Ligue 1, plutôt que de le faire comme ça, de façon publique, dans un moment comme on vit en ce moment, honnêtement?
Mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose.
Sur la forme.
Qu'on vive un moment difficile ou pas difficile, à chaque fois que Monsieur Aulas y parle, il y a quelqu'un pour aller lui fermer son clapet et lui dire qu'il raconte des conneries. C'est ça qui m'énerve.
Ça, c'est autre chose. Je peux effectivement te rejoindre là-dessus.
T'as sûrement raison. Tout le monde a plongé dedans. Alors, le premier, c'est Payet qui a répondu. Et lui aussi, il aurait pu
faire. Mais Franck, oui. Juste, je vais te répondre. Je vais te laisser répondre parce qu'on a bien compris ton message et on t'entend souvent dans Breaking Foot et on est très heureux que tu puisses librement t'exprimer chez nous. Alors déjà, je suis pas d'accord avec toi sur un point. Personne ne dit que Jean-Michel Aulas est un papy gâteux, etc. Tout le monde reconnaît que c'est l'un des plus grands présidents de la Ligue 1, l'un des plus grands dirigeants européens, et tout le monde reconnaît son talent et son intelligence. Si Jean-Michel Aulas est là depuis 33 ans, c'est parce qu'il a un réel talent. En revanche, c'est pas un hasard. En revanche, Franck, qu'est-ce qui a pu marquer les gens? Qu'est-ce qui a pu choquer les gens? De un, tu parles, je vais te retenir sur le fond et la forme. Sur la forme, cette déclaration, elle tombe, je crois, vendredi matin, c'est ça, ou jeudi soir très tard. On est en début de la crise, le président Macron s'est à peine exprimé, on a les premiers décès en France, etc. Je peux comprendre, Franck, que l'idée, comme tu le dis, est une idée, mais le timing, ça a peut-être marqué les gens et ça a peut-être choqué les gens. Je connais bien Jean-Michel Aulas, je connais même très bien, ça a pu m'étonner de voir une déclaration d'un des présidents les plus expérimentés du football français aussi rapidement. Aujourd'hui, il n'y a rien. Le football n'a pas sa place. Aujourd'hui, le football n'a pas sa place dans les débats, j'ai envie de dire, à la télévision ou dans la presse, etc. Aujourd'hui, là, ce qu'on fait de faire un breaking, demain, on va s'arrêter, on va arrêter de parler de football, on va faire une petite pause, c'est essayer de donner une heure de distraction. Mais les conflits d'intérêts sur le football n'ont pas leur place. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, sur le fond, Franck, est-ce que c'est une idée ? Parce que la façon dont l'exprime Jean-Michel Aulas, t'as l'impression quand même que c'est un truc qui est bien en place, que c'est un truc de fond et qui est vraiment ça, c'est avancé, etc. Non, l'équité sportive. J'ai regardé, Franck, il y a huit équipes en Ligue 2 qui peuvent prétendre à monter en Ligue 1. Huit équipes. Qu'est-ce qu'on fait de ces huit équipes là? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de l'Olympique de Marseille qui s'est battu pendant 30 journées pour aller en Champions League? Qu'est-ce qu'on fait de ces équipes qui sont intéressantes, qui se sont battues pour aller en Champions League ou en Ligue Europa, comme le Stade Rennais qui a fait une saison formidable avec Julien Stéphan? L'équité, c'est important. Aujourd'hui, le classement, les ambitions personnelles des uns et des autres n'ont rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui en France ou avec l'équité et l'égalité. Il faut terminer la Ligue 1, et si la Ligue 1 ne se termine pas, eh bien il faudra prendre en ligne de compte le dernier classement de la Ligue 1. C'est tout, ça s'appelle l'égalité, ça sera fait pour les supporters rennais, les supporters lillois et les supporters marseillais, les parisiens. Pourquoi on retirait un titre au PSG? Pourquoi? Alors que le PSG, ça fait 30 matchs qu'ils se battent, Franck. Cette idée-là, aujourd'hui, elle n'a pas forcément sa place dans le timing et sur le fond. Parce qu'il faut respecter dans le sport une chose, c'est l'équité et l'égalité.
Voilà, Franck, la réponse de Mohamed. Merci d'être venu au 32-16. On t'attend de nouveau dans Breaking Foot très rapidement, hein, évidemment. Voilà, Franck qui vient de nous quitter. Mohamed, moi, j'étais entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc voilà, j'ai même pas un mot à rajouter. Je voudrais juste, Pierre et Mohamed, qu'on accueille Laurent qui nous a appelé lui aussi au 32-16. Il est supporter niçois. Et il va plutôt dans le sens inverse de Franck. Bonjour, lui, il est outré par les déclarations qu'a pu tenir Jean-Michel Aulas tout au long du week-end.
Bonsoir.
Salut, Laurent.
Ça va bien ?
Salut Laurent,
ça va et toi ?
On t'écoute, écoute, nous ça va, mais on aimerait que ça aille mieux, mais on s'accroche.
Bon, bah écoute, donc, alors déjà pour faire très court sur ce que, par rapport à l'équipe sportive, moi je pense que la solution la plus juste, ce serait d'arrêter le classement après trois quarts de championnat tel qu'il est là, comme on le fait dans certains grands prix de Formule 1, quand les choses à quelques tours de la fin, quand il y a des situations un peu spéciales, on n'arrête pas le classement en octobre, on l'arrête en mars. Pour moi, ça serait ça le plus juste. Mais c'est pas le propos le plus important. Pour revenir aux déclarations du président Aulas, si la situation n'était pas telle qu'on la connaît en Europe, dans le monde, enfin, bon, c'est une situation catastrophique, ça serait une déclaration de plus du président. Il le fait 3-4 fois par an, on a l'habitude, il le fait très bien, il est très fort avec les mots, il n'y a pas de problème. Là, ce qui m'a vraiment choqué, d'abord, c'est la violence des propos. On peut diviser ça en deux. La première partie, la réponse au président marseillais était outrancière. C'est vraiment hallucinant d'entendre ça, alors que les gens ont quand même besoin, tout sauf d'agressivité. On ne va pas rentrer dans le sentimentalisme, mais on a besoin un peu de compassion, de gentillesse, et t'entends ce genre de propos qui est complètement hallucinant. Il a été trop loin, donc il passe dans Tim Dugas, parce que ça, évidemment, il s'est rendu compte que tout le monde qui avait un tollé. Donc je l'écoute dans Tim Dugas. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement il ne s'excuse pas, alors il n'aurait pas sur le fond, parce que sur le fond, on ne lui demande pas, mais au moins sur une certaine violence, il aurait pu un peu montrer un petit peu de quelques excuses, il ne le fait pas. Mais en plus, il se fait passer pour une victime. Ça, c'est très fort. Alors ça, il le fait toujours très bien, ce qui est encore plus exaspérant. Et il en profite pour faire l'apologie du club lyonnais en parlant de la Youth League, du football féminin, etc., ce dont les gens n'ont rien à faire, surtout pas en ce moment. Il en profite pour dire que ça va très bien, que le club lyonnais est en progrès. Donc du coup, j'ai regardé le classement de ces 20 dernières années. C'est le classement le pire de l'Olympique lyonnais à cette époque de l'année, ces 20 dernières années, à savoir 7e. Donc tout ça est complètement faux. Mais pour terminer, pour conclure, et le pire, c'est après ce qu'il dit à la fin de son intervention, quand il parle du fait que l'Olympique Lyonnais va s'en sortir parce qu'il est bien géré, donc va sortir de cette crise. Ça, j'en doute pas, parce qu'on ne peut pas lui retirer une chose. C'est un excellent gestionnaire et un excellent président, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qu'il dit sur les autres clubs, c'est ça qui m'a fait le plus bondir. Ça a l'air de rien, mais au lieu de dire « j'espère que les autres clubs vont s'en sortir », ce qui est la moindre des choses par les temps qui courent, il te dit « je ne sais pas si les autres clubs vont s'en sortir ». Ça veut tout dire. C'est cette petite phrase, moi, qui m'a fait bondir. « Je ne sais pas », et puis il l'a répété deux fois, hein. « Je ne sais pas si les autres clubs vont s'en sortir ». Mais nous, on va s'en sortir. C'est toujours pareil.
Il montre toujours une espèce de...
d'animosité Laurent, par ces temps qui courent, c'est ça qui me fait le plus mal, en fait.
Laurent,
vous voyez,
tu viens de dire quelque chose d'extrêmement intéressant, et je t'en remercie. Laurent, je vais te donner un chiffre pour tous les auditeurs. Si la Ligue 1, chaque match de Ligue 1 qui ne se jouera pas, ça va coûter 21 millions d'euros au football français. Il faut, bien évidemment, hormis le fait que la crise sanitaire va continuer, et on espère qu'elle ne durera pas, rester chez vous, parce que plus on reste chez nous, moins on a de contacts et moins la pandémie va évoluer. Chaque match qui ne se jouera pas, c'est 21 millions d'euros. Il y a des clubs qui vont être dans une situation difficile. Je regardais un article tout à l'heure, il y a un club de 5e ou 4e division anglaise qui a déjà fermé, qui a déjà mis 60 personnes au chômage. Il faut terminer cette Ligue 1 si, bien évidemment, l'État nous le permet, si le gouvernement nous le permet, si la santé publique nous le permet, parce qu'il y a aussi des questions d'argent. Il y a des clubs de Ligue 2 qui ont besoin que la Ligue 2 se termine. Il y a des clubs de Ligue 1, j'ai pas envie de citer de nom parce que sinon on va me dire oui, mais notre club est peut-être dans une situation financière mauvaise. Non, il y a des clubs de Ligue 1. Il y a des clubs de Ligue 1, il faut le dire à tout le monde, à tous nos éditeurs sur RMC, qui ont besoin de l'argent des 10 derniers matchs de ce championnat. Imaginez qu'est-ce que vont dire les diffuseurs si la Ligue 1 ne se termine pas et la Ligue 2. Qu'est-ce que vont dire les partenaires? Qu'est-ce que vont dire les abonnés? Il y aura des recours, ça va coûter beaucoup d'argent à notre football. Il faut que notre championnat se termine coûte que coûte. Et bien évidemment, il faut qu'il se termine si l'État nous le permet, si cette pandémie s'arrête. Et il faut prier chaque jour pour que ça se termine le plus rapidement et croire en nos chercheurs et en nos soignants.
Merci Laurent d'avoir été avec nous au 32-16. Tu reviens quand tu veux, évidemment, dans Breaking Foot. Tu es le bienvenu, c'est surtout dans cette rubrique Allo Breaking.
Breaking quoi, Benoît?
Breaking Foot.
Breaking quoi,
c'était un peu dur.
Breaking quoi mal, Breaking Foot.
Excusez-moi, c'est la première, ça ira mieux pour les prochaines. Un invité dans un instant. Ah, ça vous fait rire. Oui, mais en tout cas, c'est l'arrosant arrosé. C'est comme ça, j'aime bien vous taquiner et du coup, ça me tombe dessus. On va accueillir Benjamin Lecomte, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, le gardien de but de l'AS Monaco. Il sera avec nous, on pourra l'entendre sur sa situation personnelle. Imaginez, il est confiné avec deux enfants en bas âge. Oh l'horreur!
On va en parler
avec lui. À tout de suite sur RMC.
C'est pire, il va vouloir revenir au travail.
Un dans chaque gant.
Exactement.
RMC, 20h-21h. Breaking Foot
jusqu'à 21h sur RMC. Mohamed Bouafsi et Pierre Ducrot dans 15 minutes. Grand after de 3h jusqu'à minuit avec Gilbert Bribois, Daniel Riolo, Jérôme Roten et Julien Cazin.
RMC Breaking Foot, le confidentiel.
Tiens, et ça vient de tomber d'ailleurs, la première réaction de Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Il a réagi il y a quelques instants au report de l'Euro 2020. Écoutez ses propos.
Le principe majeur étant évidemment de tout faire pour terminer le 30. Mais s'il faut aller au-delà, on s'adaptera. On s'adaptera avec les clubs, avec les joueurs. S'il faut jouer tous les 3 jours, on jouera tous les 3 jours. Ce qu'a convenu l'UEFA aussi, c'est qu'on pourra sortir du MOU qui est entre nous, le MOU qui est Memorandum of Understanding entre les ligues et l'UEFA, qui dit que les ligues jouent le week-end et l'UEFA la semaine. Donc là, il a été convenu ce matin que chacun pourrait jouer quand il voudrait. On va attendre que le groupe de travail de l'UEFA se réunisse. Il donne des grands principes d'équilibre des calendriers. Et à partir de ces grands principes d'équilibre que donnera l'UEFA, nos services à la Ligue vont confectionner 2-3 scénarios qu'on présentera au conseil d'administration, je pense sous 8-10 jours, quand on y verra plus clair des travaux de l'UEFA.
Voilà la première réaction donc de Didier Quillot, le directeur général de la Ligue de football professionnel. Il réagit au report de l'Euro 2020 qui aura lieu donc à l'été 2021, Mohamed.
Et on est avec un homme qui se confine depuis midi comme tous les millions de Français. Chaque soir, on appellera vers 20h45 un joueur, un dirigeant de la Ligue, un président, un entraîneur pour nous faire part de leurs détails de vie de ce confinement. Et ce soir, on est avec le gardien de l'AS Monaco, international français, Benjamin Lecomte. Salut Benjamin.
Salut
Benjamin.
Bonsoir Benjamin.
Benjamin, on imagine que pour toi aussi, ça doit être pas facile cette période. Raconte-nous, où es-tu là? T'es où? Est-ce que tu as passé cette période de confinement dans la principauté à Monaco?
Non, moi je suis en dehors de Monaco, mais à la maison avec toute ma petite famille. Et voilà, depuis midi, même encore hier déjà, on avait déjà un petit peu commencé, mais voilà, on a été faire le nécessaire au niveau des courses. Et puis aujourd'hui, c'est parti.
T'as des nouvelles de tes coéquipiers, Benjamin? Est-ce que les étrangers ont quitté la France?
Non. Enfin, il y en a beaucoup sur la Principauté. Pour les Français, on est tous autour de Monaco. Voilà, on respecte ce que veut le gouvernement. C'est très important, je pense, si on veut s'en sortir le plus rapidement possible. Et on essaye de se tenir en forme pour une possible reprise de championnat.
Benjamin, concrètement, comment tu vis la situation? Bon, ça vient de démarrer, hein, le confinement, évidemment, ça a démarré à midi en France et ça durera au moins 15 jours. Est-ce que tu arrives à t'entretenir physiquement? C'est vrai aussi qu'on rappelle que ton poste est très particulier, gardien de but, vous vous entraînez un petit peu à part. Est-ce que tu as un programme précis? Comment ça s'organise, en fait?
Oui, en fait, le club a vraiment bien géré ça. On a tout de suite été mis au courant des dispositions qui pouvaient arriver. Donc, on a été revenu au club pour prendre du matériel, pour travailler à la maison, pour voir déjà si on avait le nécessaire à la maison, si on l'avait pas, de pouvoir compléter un peu pour rester en forme. Voilà, on nous a tout prêté, que ce soit des vélos, que ce soit des poids, des haltères, des bancs. Enfin, voilà, on a pu tout récupérer pour travailler à la maison. Et puis après, voilà, on a avec le prépa physique un programme à faire, moi avec l'entraîneur de gardien des choses à faire. Après, en entraînement pur de gardien, c'est pas possible.
Ah ouais.
Parce qu'à la maison, c'est très compliqué, mais voilà, il y a plein de choses. Le poste de gardien est très, très particulier, donc on a plein de choses à faire et on essaye de garder vraiment la forme et le moral pour tout ça.
Pierrot, t'as une question pour Benjamin Lecomte?
Non, juste lui dire qu'il est chanceux d'être à Monaco, parce que je crois que tous les clubs, même en Ligue 1, n'ont pas les moyens de rééquiper tous les joueurs. On en sourit, mais c'est une réalité, hein. C'est une vraie chance, c'est un vrai privilège, parce que Benjamin va pouvoir, avec ses coéquipiers, continuer à la maison à faire, alors, ce qui ressemble pas exactement à à des entraînements, voilà, que tu peux faire en temps normal, mais au moins à limiter les dégâts. Mais pour beaucoup de clubs de Ligue 1, et on parle même pas de la Ligue 2 ou du National, etc., mais, c'est une vraie chance, parce qu'il y en a beaucoup qui pourront pas le faire, malheureusement.
C'est vrai que là, de ce côté-là, on a vraiment été prévenus très rapidement. On nous a mis à disposition pas mal de matériel. Puis après, ça fait un peu comme une pré-saison confinée, parce qu'on a quand même le droit d'aller courir, on a le droit de s'entretenir. Après, même sans avoir beaucoup de matériel, on peut faire énormément de choses avec le poids du corps à la maison. Il y a beaucoup de possibilités. Après, faut juste garder l'envie et essayer de respecter ce qu'on nous demande et de garder surtout la forme, parce que si ça reprend, il va falloir être présent et très rapidement, je pense.
T'as pas un des deux enfants qui peut frapper?
Non, mais c'est
peu,
ça que j'allais dire, Pierre. Pierre, c'est ça que j'allais demander. Tiens, Benjamin, d'habitude tu esquives les cours, les devoirs, je pense. Là, c'est l'école à la maison pour des millions de Français. Toi, t'as les enfants de 6 ans et de 20 mois. T'as donné les devoirs aujourd'hui? T'étais devant l'ordinateur?
Aujourd'hui, c'était pas mon tour. C'est ma femme qui a fait un peu le prof. Demain, c'est moi. On essaye d'alterner un peu les tâches pour que, ben, justement, ce soit pas tout le temps les mêmes choses pour chacun. Et puis, ben, le petit de 20 mois, voilà, une balle et un peu d'extérieur, et ça suffit pour recombler pendant au moins une heure et demie, donc ça va.
Bon, donc ça tu remets la tête dans les devoirs de l'école primaire, c'est bien, bravo.
On a plus trop le choix, en plus c'est une année quand même très importante, le CP, mine de rien, pour tout ce qui est lecture, écriture, donc voilà, on est bien entouré parce qu'on nous envoie vraiment tout. Il y a pas mal de choses à faire, ça c'est vrai qu'on n'est plus habitué, mais il faut le faire parce que c'est très important, et voilà, j'espère que tout le monde aussi respecte tout ça pour les petits bouts.
Benjamin, et c'est quoi tes conseils conseils de confinement, Benjamin? Dis-nous, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, tout le monde est sur Netflix.
La priorité, c'est quand même de la respecter, d'essayer de pas sortir en groupe, de faire attention à tout ça. Après, à la maison, c'est dès que on essaye d'optimiser le temps entre les deux enfants. Quand il y en a qui ont la sieste, on peut faire un peu de devoirs. Quand c'est pas le temps des devoirs, on peut regarder un petit Netflix. mais l'heure 8-9 heures, une fois que les petits sont au lit, c'est quand même le meilleur moment. Là, après, la journée, elle est terminée. On peut se poser un peu devant la télé, et puis demain, c'est reparti pour une journée, parce qu'on sait pas combien de temps va durer. Et puis surtout, si les gens qui le peuvent aller courir et s'aérer un petit peu individuellement, bien sûr.
On se soucie du retour des joueurs de Ligue 1, de Ligue 2 dans un mois et demi, deux mois, je sais pas. Mais finalement, vous allez respirer de nouveau quand vous repartirez à l'entraînement de 9h à 14h.
On n'est pas habitué, mine de rien. Tout le monde pense que c'est facile, on a nos journées qui sont très programmées, qui prennent beaucoup de temps, et là on se retrouve vraiment 24 heures sur 24 à la maison à pas pouvoir faire ce qu'on aime. C'est pas le plus agréable, facile, mais on n'est pas les seuls, et on a certes un métier qui est beaucoup de visibilité sur dans le monde entier, mais on est comme tout le monde, et on doit respecter ces règles-là, et le jour où on nous donnera le feu vert pour reprendre, là c'est sûr qu'on respirera vraiment à nouveau.
Benjamin, une question sportive, l'actualité de la journée, c'est donc le report de l'Euro 2020, il aura lieu à l'été 2021. Ta réaction à cette décision, c'était la bonne à prendre?
Oui, oui, parce que de toute façon, étant donné qu'on a très peu ou pas de visibilité sur le football et sur tout ce qui va se passer au niveau de la santé, je vois pas comment ça aurait été possible de le maintenir et de l'annuler en dernier moment. Là, voilà, au moins c'est acté, c'est fait. Mine de rien, il y a quand même de la chance de pas avoir de compétition internationale qui permette de décaler 7 euros. Donc voilà, c'est la solution la plus, voilà, la mieux pour tout le monde.
Merci Benjamin d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Benjamin.
Merci Benjamin.
Merci à toi.
Merci à vous.
Merci à toi. Profite bien de tes petits bouts de chou à la maison. Merci beaucoup Pierre Ducrot.
Merci à vous tous.
Merci à toi Pierre. Et merci, un grand merci surtout à Benoît. Pour
merci
une première, c'était pas simple et t'as été parfait.
Ah bah
voilà,
merci,
on s'est régalé. Et juste avant de donner la parole à Gilbert Bribois. Non, mais c'est pas grave, ça s'est pas vu.
Parfait,
Monsieur Bribois.
Tu fourches pas.
Mais non, mais il fourche pas, il fourche jamais, Benoît Boutron. Monsieur Bribois est entré dans le studio parce
Salut
que la meilleure émission de football au monde va démarrer dans 2 minutes. Bonsoir Gilbert, quel est le programme de l'After?
Déjà, l'After ne s'arrête jamais. On est avec vous là pendant toute cette période sans match. Donc on continue à parler foot. 3 heures ce soir avec évidemment toute l'actu liée au calendrier. On aura Bernard Joinin avec nous tout à l'heure. Il faut le truc sympa à raconter, Bernard Joinin, président Damien. Et puis, vous le savez, avec le hashtag MonAfter, c'est vous qui faites le programme de l'After pendant ces soirées sans match. Eh bien, à la demande générale, ce soir, on relance les chapeaux. Et oui, les chapeaux, ce soir avec le numéro 9 pour démarrer, bien sûr. Sans oublier le quiz et toutes les autres chroniques habituelles de l'After jusqu'à minuit.